Chapitre 30. Je regagnai mon appartement, fatigué et abattu. Ce dont j'avais le plus envie, c'était d'envoyer balader mes chaussures, de me servir un grand verre de vin et de fixer un mur blanc, jusqu'à ce que la tornade de peurs anciennes et de nouvelles révélations au sujet de ma sœur finissent par se calmer dans ma tête. Mais je trouvai ma porte ouverte, légèrement entrebâillée. Je me figeai dans le couloir et me cramponnai inconsciemment à mon sac à main. Je n'avais ni amis, ni relations. Aucun de mes voisins n'avait de double des clés. Aucun plan cul, pour employer le vocabulaire de Charlize Garzy, ne m'avait jamais retrouvé ici. Le tueur à la rose. Je reculai, sortis mon téléphone portable et appelai la réception. Monsieur Daniels était de permanence. Vous avez laissé quelqu'un entrer chez moi? Un livreur? Un vieil ami?
Ah, non, 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 non,
se défendit-il.
J'ai bien compris le message après le type, la femme, l'employé du gaz. Toutes les demandes doivent d'abord vous être soumises. C'est sûr, il y a eu du va-et-vient aujourd'hui. Des invités pour d'autres appartements, l'installation d'un nouveau locataire et la visite de quelques acheteurs potentiels. Mais personne pour vous, Dr. Glenn. Autrement, je vous aurais tout de suite appelé. Vous avez ma parole.
Je le remerciai et raccrochai. Des invités en nombre, des acheteurs potentiels qui demandaient à visiter. Autant de couvertures possibles pour le tueur à la rose. Demander mon appartement en particulier pour la seconde fois aurait éveillé des soupçons. Tandis que demander à visiter un appartement, disons un étage au-dessus du mien, seulement quelques marches à descendre par la cage d'escalier, ça fonctionnerait aussi bien. Ou faire un tour. Est-ce que je pourrais rester seule un petit moment, me balader dans l'immeuble? J'aimerais juste me faire une idée de l'ambiance. Et ensuite, sprinter tranquillement jusqu'à chez moi. J'aurais dû appeler Didi Warren, accepter la protection policière qu'elle m'avait proposée. Au lieu de ça, je poussai la porte et la laissai s'ouvrir sur l'appartement, où régnait l'obscurité et le silence. « Chérie ?» lançai-je avec un soupçon de roucoulement dans la voix. « Je suis rentrée. » J'allumai la grande lampe et éclairai le vaste espace de vie. La porte d'entrée donnait sur un vestibule carrelé. À gauche, la cuisine. En face, la porte ouverte sur la grande chambre. À droite, le séjour. Mon canapé bas en cuir noir avait la même allure que d'ordinaire. Pas un seul petit coussin décoratif n'avait été déplacé. J'entrai. La main gauche sur la courroie de mon sac. La droite encore crispée sur mon portable. Le tueur à la rose avait agressé des femmes endormies et une vieille dame terrassée par un cancer. Pas un affrontement direct, un jeu plus subtil. Épier la victime et comploter à son insu, pour finalement lui tomber dessus avec du chloroforme. Eh bien moi, je n'étais pas endormie, je n'étais pas vieille. Et ce ne serait pas demain la veille que la peur d'un assassin me chasserait de chez moi. J'étais née dans une famille de prédateurs plus redoutable encore, et je le savais. J'allumai d'autres lampes. Me dirigeai vers la cuisine, dos contre le mur, embrassant du regard le territoire à découvert. Rien ne semblait anormal. Le mobilier aux lignes pures, la décoration moderne, offraient le même confort luxueux qu'auparavant. J'aurais dû me munir d'une arme. Prendre une batte de baseball ou un club de golf dans le placard du couloir, par exemple. Mais comme j'avais passé toute ma vie à éviter de faire du sport, je ne possédais ni l'un ni l'autre. J'aurais pu aller chercher un couteau dans la cuisine. Le fameux couteau de boucher avec lequel se promène la courageuse héroïne dans certains films d'horreur. Mais ça n'aurait pas été prudent. J'aurais trop facilement pu me couper sans m'en apercevoir. Comme ces trois griffures à mon poignet. Ça avait été agréable d'avoir un chat sur les genoux, pour changer un peu. Son ronron apaisant, le toucher soyeux de sa fourrure. J'avais réellement apprécié ces instants, au point que j'avais envisagé d'adopter un chaton. Jusqu'au moment où nous étions sortis et où Didi m'avait fait remarquer que je saignais. Un simple chat, bon sang. À l'âge que j'avais, je ne pouvais même pas m'offrir le réconfort d'un chaton. Et d'un seul coup, j'en ai vraiment eu ras-le-bol. De mon patrimoine génétique et de cette maladie qui faisait de moi un être à jamais à part. Au point que je passais mes journées auprès de patients affligés de l'unique sensation que j'aurais tout donné pour ressentir. Parce qu'il n'y avait pas de Melvin dans ma vie pour me servir de garde-fou, alors je devais dire non à tout. Aux loisirs, aux promenades sur la plage, à l'amour, aux enfants, aux chatons. J'étais comme un jouet sous papier bulle, en permanence posé sur une étagère et avec lequel on ne s'amuse jamais, de peur de le casser. Je ne voulais pas être un jouet. Je voulais être une personne, bien réelle, active. Une femme avec des coupures, des bleus, des cicatrices de guerre et un cœur brisé. Quelqu'un qui vivait, riait, souffrait et guérissait. Autant demander la lune, c'était comme ça. Ce qu'il ne peut changer, l'individu intelligent et performant apprend à l'accepter. Je scrutais les coins sombres de mon appartement et m'avisais que pour une fois, ma maladie hors du commun était peut-être mon meilleur atout pour me défendre. Le principe d'une embuscade, c'est de désarçonner sa victime par une agression inattendue dont la douleur la terrassera. Sauf que je ne ressentais aucune douleur. Le tueur à la rose pouvait me filer une beigne sur le crâne, me donner un coup de poing dans le ventre, me tordre le bras. Cela ne lui servirait à rien. Je répliquerais de plus belle, et poursuivant l'assassin dans tout l'appartement de mon regard noir et imperturbable, je ne serais plus la conscience de ma famille, mais sa vengeance. J'inspectais le cellier, le placard du couloir, les toilettes. Pour finir, ma chambre. J'appuyais sur l'interrupteur. Mon grand lit double apparut. Mon regard se porta immédiatement sur la table de chevet. Rien. Ni champagne, ni rose, ni menottes fourrées. Pas même les faux plis qu'aurait laissé un corps allongé sur le lit. Je ne comprenais pas. Il ne restait plus grand-chose à inspecter. Le dressing, la spacieuse salle de bain. Rien. Le tueur à la rose était venu. Je n'en doutais pas. S'agissait-il pour lui de satisfaire sa curiosité ou d'alimenter une obsession? Aucune idée. Mais il s'était promené dans mon appartement. Peut-être avait-il fouillé dans ma lingerie, regardé quels étaient mes aliments préférés. Et il était reparti, en laissant la porte ouverte pour le plaisir de frimer. Je fis un deuxième tour du propriétaire, le pas plus sûr, le regard plus acéré. Cette nouvelle ronde, n'ayant débusqué aucun monstre tapis sous le lit, ni aucun intrus cagoulé dans un placard, je finis par poser mon sac à main, me laisser tomber au bord de mon lit et libérer le soupir que j'avais inconsciemment retenu. Le tueur à la rose était revenu me voir, conformément aux prédictions de ma sœur. Ce monstre qui avait un lien avec elle et avec un meurtre vieux de 30 ans. Je ne savais plus quoi penser. Si j'en avais été capable, j'imagine que j'aurais eu mal à la tête. Au lieu de cela, j'étais fatiguée à en mourir, comme si je n'avais pas la force d'avoir une idée de plus, de faire un pas de plus. Il me vint alors à l'esprit que le tueur avait dû s'asseoir sur mon lit. Qu'il, ou elle, avait peut-être même posé sa tête sur mon oreiller, juste pour voir ce que ça faisait. Je me levai, retirai les couvertures, puis les draps, et j'emportai le premier ballot au bout du couloir, où se trouvaient l'un au-dessus de l'autre le lave-linge et le sèche-linge. Je n'y allais pas de main morte avec la lessive, et encore moins avec la javel. Ensuite, direction la salle de bain, où je me regardais enfin dans le miroir. J'étais plus pâle que le matin même, les traits plus tirés, les yeux cernés. Je ressemblais davantage à ma sœur. Vivre en prison, vivre dans la peur. Apparemment, cela produisait les mêmes effets. Je reportais mon attention sur mon poignet, les trois griffures que j'avais soignées dans la voiture de Phil. Les plaies étaient superficielles, les bords pas trop déchiquetés, mais elles restaient légèrement enflammées. Il allait falloir que je surveille ma température pour me prémunir contre une infection. Je déboutonnai mon cardigan fuchsia et découvris un mince tricot de corps blanc. Je le retirai à son tour et observai mes épaules pâles, mes bras, mon ventre. Je me tournai d'un côté, de l'autre. Un bleu. Je ne savais ni quand ni comment je me l'étais fait, mais j'avais une marque sombre à l'arrière du bras gauche. Et encore une écorchure, juste au-dessus de la ceinture de mon pantalon. Le chat? Un objet saillant que j'aurais frôlé sans y prendre garde? Autant de questions auxquelles je n'aurais jamais de réponse. J'en étais réduite à faire l'inventaire des dommages, sans nécessairement en identifier l'origine. Je retirai mon pantalon, que je laissai en tas par terre. Je me trouvai un nouveau bleu, au creux de la cuisse droite, celui-là. Décidément, avoir deux policiers comme camarades de jeu n'était pas bon pour la santé. Je passai lentement mes doigts dans mes cheveux pour inspecter mon cuir chevelu. Puis, je tâtai mes articulations une à une pour vérifier qu'elles n'étaient pas enflées. J'avais pu faire un faux pas en descendant du trottoir ou me tordre la cheville en montant en voiture. Je terminai en examinant mes yeux dans un miroir grossissant et en prenant ma température. Ces derniers bilans étaient normaux. À part que j'étais traquée par un tueur en série, je me portais comme un charme. Je nouai la ceinture de mon long peignoir en soie et partis vers la cuisine d'un pas là. Je me servis ce grand verre de vin que je m'étais promis. Puis, je regardai ma porte d'entrée et me rendis compte que je n'arriverais jamais à dormir dans ces conditions. Si le tueur à la rose avait crocheté la serrure une fois, il ou elle pouvait recommencer. Peut-être d'ailleurs n'avait-il même pas eu à se donner cette peine s'il possédait une copie des clés. Pourquoi pas? Il semblait déjà tout savoir de moi. J'étais trop fatiguée pour appeler un serrurier. Alors je décidai de coincer une chaise sous la poignée. Puis, d'humeur vindicative, je semai le plancher de décoration de Noël en verre, comme le gamin dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Si ça avait marché pour lui, pourquoi pas pour moi? Requinqué, je pris mon verre de vin et me repliai dans la salle de bain, où je m'accordai une douche pas trop chaude. Les chiffres rouges du thermostat à affichage digital me garantissaient que je ne me brûlerais pas. Alors, enfin, j'affrontai la grande question du jour, la vraie source de ma colère et de ma nervosité. L'ouragan Shanna. Ma grande sœur, celle qui affirmait qu'elle m'avait sortie du placard 40 ans plus tôt et qu'elle m'avait serrée dans ses bras. Parce que si on n'a pas de famille, alors on n'a rien du tout. Je voulais qu'elle m'aime. C'était affreux, illogique, pitoyable. Une faiblesse sentimentale de la part d'une psychiatre qui aurait dû savoir à quoi s'en tenir. Et pourtant, quand elle avait parlé du dernier instant que nous avions passé ensemble chez nos parents, il m'avait semblé que je m'en souvenais. Les cris des hommes qui tambourinaient à la porte, la voix de mon père dans la salle de bain, la réponse chuchotée de ma mère. Et puis Shanna, ma grande sœur qui venait me chercher, qui me prenait dans ses bras, qui me disait qu'elle m'aimait et qu'elle me protégerait toujours. Moi aussi, je l'aimais. L'eau me semblait plus épaisse sur mes joues. Est-ce que je pleurais? À quoi bon? L'enfant de 4 ans qui avait existé 40 ans plus tôt n'était pas la femme aujourd'hui incarcérée. Shanna, adulte, se servait des gens. Elle avait détruit la vie de Monsieur et Madame Davis, celle des Johnson, celle des Sgarzi. Et qu'étaient devenus les autres enfants qui vivaient chez eux? Madame Davis avait raison. Il y avait des chances que le petit Trevor ait été expédié dans un endroit abominable où il avait été battu, violé ou perverti par le désespoir implacable d'une vie d'enfant placée, tandis que la jolie Anna Rose avait été prostituée pour satisfaire la toxicomanie de sa mère. Et jamais Shanna ne prononçait leur nom. Des familles entières avaient succombé à ces crimes, et on aurait dit qu'elles n'existaient plus pour elle. D'ailleurs, c'était le cas. Elle avait eu un besoin, une envie, et elle avait tiré un trait. Je rassemblai mes esprits et coupai la douche. Ce matin-là, ma sœur m'avait touchée parce qu'elle savait y faire. J'étais venue rompre avec elle, comme elle disait, et voilà qu'elle avait sorti de son chapeau cette histoire qu'elle ne m'avait jamais racontée en 20 ans. Je l'avais écoutée parler et j'avais été ensorcelée. Exactement comme les deux surveillants, Frankie et Rich. C'était une manipulatrice. Comme elle-même était inaccessible aux sentiments, elle pouvait étudier la nature humaine sans œillères. D'où sa capacité à observer, analyser, rassembler des informations. En parfaite prédatrice. Et Donnie Johnson, qu'il avait retrouvé dans le bosquet de Lila pour lui transmettre le message de son grand cousin. Avait-il eu peur ce soir-là? Avait-il appréhendé sa réaction? Ou bien était-il trop jeune pour avoir pleinement conscience du danger qu'il y avait à briser le cœur d'une adolescente? Jusqu'au moment où le visage de Shanna avait été déformé par un rictus de bête fauve. Où elle s'était jetée sur lui pour le larder de coups de couteau. Impulsive, déchaînée. Elle était en colère et avait donc agi comme une enragée. Cette sœur qui avait brodé une fable pour que je reste, qui, par le pouvoir de la parole, avait conduit deux, sinon trois hommes à leur destin. Je tiquai, pris une serviette, m'essuyai. Les mots. Ma sœur s'en servait aussi, comme d'une arme, et pas la moins dangereuse. Or, quand on croit aux scénarios répétitifs, et les psychiatres adorent les scénarios répétitifs, le mode opératoire de ma sœur supposait de commencer par parler. Instaurer un contact, séduire, obliger autrui à adopter le comportement désiré. Puisqu'elle était capable de faire ça avec des surveillants de prison sur leur garde, pourquoi n'aurait-elle pas d'abord tenté cette méthode avec un gamin de 12 ans? Elle lui aurait raconté un bobard pour qu'il lui ramène Charlie sur le champ. Elle était malade. Elle avait besoin de Charlie. Elle n'était pas du tout en colère. Elle avait juste besoin de lui rendre quelque chose. Elle aurait fait cela, je le savais. Elle aurait d'abord parlementé avec Donnie, parce qu'elle n'aurait pas voulu faire tomber inutilement ses foudres sur le messager de 12 ans. Non, Charlie l'avait rejeté, et son esprit vif se serait focalisé sur lui, désignant sa cible comme un rayon laser. Ma sœur n'avait pas tué Donnie Johnson. Quelqu'un d'autre s'en était chargé. Mais avait-elle été témoin de la scène? Était-elle arrivée à son dénouement? Quelqu'un, une jeune fille, me dis-je, une jeune fille penchée sur un petit garçon, un couteau à la main, comme ma mère et mon père des années plus tôt. Ce qui avait instantanément déclenché une crise psychotique. Ma sœur n'avait jamais eu la moindre chance. Mais l'oreille dans sa poche. Elle avait pu la ramasser. Peut-être même s'était-elle livrée à cette mutilation. À ce moment-là, elle devait être sur pilote automatique. L'épisode avait fait remonter non seulement tous ses désirs les plus enfouis et les plus inavouables, mais aussi ses souvenirs. Mon père avait-il un jour tranché l'oreille d'une malheureuse? J'étais certaine que si je consultais les dossiers, j'en trouverais au moins un cas. Le meurtre de Donnie était l'œuvre d'un autre, qui avait peut-être même été frappé de stupeur quand Shanna était arrivée. Mais ma sœur n'avait pas réagi par de l'indignation. Au contraire, elle s'était approchée, captivée par l'odeur du sang. L'autre personne avait trouvé le pigeon idéal. Il ou elle avait commis le crime, mais Shanna porterait le chapeau. Et ma sœur n'avait pas pu se défendre, parce qu'elle n'avait aucun souvenir de cette soirée. Et puis ce meurtre ressemblait en tout point à un acte dont, au fond d'elle-même, elle se savait capable. Fille d'un tueur en série, accusée de meurtre, destinée à devenir à son tour une tueuse en série. La fatalité, aurait-elle dit, je crois. Elle était simplement trop lasse pour continuer à lutter. Alors qu'attendait-elle de moi? Et que pouvais-je lui apporter, si on était réaliste? J'entrai dans le dressing pour prendre un pyjama. Je ne m'aperçus de rien avant d'avoir ouvert puis refermé le tiroir du haut de la commode. Mais quelque chose retint mon attention. Le dressing n'était pas comme d'habitude. Un détail clochait. Un détail. Cette commode en merisier, elle n'était pas là où elle aurait dû se trouver, bien à sa place, au-dessus de ma planque. Non. Elle était avancée de quelques centimètres, comme si quelqu'un l'avait déplacée. Mon pouce accéléra. C'était peut-être moi, la veille au soir, quand j'avais enlevé les flacons dans ma tentative désespérée pour me débarrasser des preuves. Sauf que je l'avais remise exactement à sa place, fidèle à une habitude paranoïaque acquise au fil de ces années où j'avais essayé de me dissimuler le pire. Il était venu ici, dans mon dressing. Il avait... Alors je sus. Je déplaçai à mon tour la commode pour accéder aux lames de plancher désirées. À quatre pattes, je soulevai la première, puis la deuxième. La cachette que je venais de vider n'était plus vide. Elle contenait un carton à chaussures. Un carton, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme celui que j'avais encore la veille, ou comme celui que j'avais vu sur les photos de scènes de crime prises chez mon père. Je savais, avant même de le sortir de la planque, avant même de le poser par terre. Je savais ce que j'allais trouver à l'intérieur. Les horreurs indicibles qui attendent dans les cartons à chaussures les plus ordinaires, dissimulés sous le plancher d'un dressing. Le tueur à la rose chez moi, qui m'offrait des présents, qui m'avait apporté cette chose qu'il ou elle savait que je désirais entre toutes et qu'il avait cachée dans un endroit dont personne, pas même ma sœur, ne connaissait l'existence. Je soulevai le couvercle, le posai sur le côté et regardai avec épouvante trois bocaux neufs remplis de lanières de peau humaine destinées à remplacer ma collection. Je poussai un hurlement, mais il n'y avait personne pour l'entendre.